Mesdames, Messieurs, auditrices et auditeurs des programmes du studio Kalangou, il est 18h15 à Niamey. Bonsoir et soyez la bienvenue dans votre émission quotidienne, le Forum du studio Kalangou. Une émission dans laquelle sont débattues des thématiques importantes de la vie et qui vous permet d'obtenir des réponses satisfaisantes aux questions que vous posez au quotidien. Il s'agit d'une émission que le studio Kalangou diffuse à travers ses 45 radios partenaires répartis sur l'étendue du territoire national du Niger. Le thème qui est objet de notre débat ce soir s'articule autour de la question de l'enseignement supérieur dans les universités publiques du Niger, plus précisément l'autonomie des enseignants chercheurs dans le système LMD. Que renferme la notion de l'autonomie des enseignants chercheurs? Quels sont les atouts liés à cette autonomie, ses avantages et ses inconvénients? Quelles sont les perspectives pour l'amélioration des conditions de vie et d'études dans les universités publiques du Niger? Auditeurs et auditrices, c'est donc pour apporter des réponses satisfaisantes à toutes ces interrogations posées et bien d'autres que nous avons invité M. Idrissa Moussa, chargé des relations extérieures au SINASUP, syndicat autonome de l'enseignement supérieur dans le public, et également M. Mahamadou Moustapha Tchiroma, qui est le chargé aux affaires académiques au niveau de l'UNUN, l'Union des étudiants à l'Université de Niamey. Nous avons également pour ce débat invité le SNEX, syndicat national des anciens chercheurs et chercheurs, mais qui n'ont pas voulu répondre présent à notre invitation, mais aussi le ministère des enseignements supérieurs qui n'ont pas répondu présent à notre invitation. Pour ce qui est de la modération, retenez que vous avez avec vous Al-Mustapha Bakimba Touré. Le Niger compte aujourd'hui plusieurs universités publiques réparties dans les 8 régions du territoire national. Depuis un certain temps, les institutions de l'enseignement supérieur du Niger fonctionnent sur la base du système LMD, qui est un mécanisme permettant l'organisation du cycle des études supérieures en 3 phases, précisément les cycles de licence, master et doctorat. Dans l'application de ce système, les textes qui régissent l'enseignement supérieur prévoient une autonomie pour les enseignants chercheurs dans l'exercice de leurs fonctions. Cette question de l'autonomie des anciens chercheurs est diversement appréciée par les acteurs qui interviennent dans le domaine de l'enseignement supérieur et constitue pour certains l'une des causes du dysfonctionnement des universités publiques du Niger. Il s'agit d'une question qui mérite un traitement minutieux pour l'amélioration du cadre d'études dans les universités publiques. Dans le forum de ce soir, nous allons échanger et débattre sur cette question de l'autonomie des anciens chercheurs. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons vous poser, chers invités, une question, celle de savoir qu'est-ce que concrètement l'autonomie des anciens chercheurs.
Donc, l'autonomie des anciens chercheurs, c'est un peu trop dire. On parle de liberté académique pour les enseignants chercheurs. Donc, liberté académique renferme l'autonomie des réflexions, l'autonomie et l'indépendance et la liberté d'expression, les libres discussions entre les anciens chercheurs. Voilà, en quelque sorte, ce qu'on appelle les libertés académiques consacrées par la loi 2012 de notre gouvernement. Mais en fait, dans toutes les universités du monde, il y a toujours cette liberté d'expression des enseignants et des chercheurs afin de pouvoir échanger, discuter entre nous et faire évoluer les connaissances. Parce que l'université a plusieurs objectifs. Donc la recherche qui permet d'acquérir des connaissances, et il y a l'enseignement qui permet également de dispenser. Donc si l'enseignant, il n'y avait pas cette liberté académique, l'enseignant sera contraint de travailler avec un programme imposé. Et donc par conséquent, très peu de connaissances ou bien même la recherche peut être inhibée. Parce que simplement certaines sections seront interdites aux enseignants et aux chercheurs. Par conséquent, on peut dire que la recherche sera stérilisée, il ne peut pas avoir d'avancement. Donc, on ne parle pas d'autonomie d'enseignants-chercheurs. mais on parle des libertés, liberté d'expression, liberté de recherche et la liberté de s'exprimer. Voilà ce qui renferme les libertés académiques.
Donc, docteur, pouvez-vous nous dire pourquoi vous dites qu'on ne parle pas d'autonomie chez des anciens chercheurs alors que nous, dans le quotidien, c'est le terme qu'on rencontre?
Je pense que l'autonomie, c'est un peu trop dire. Ça veut dire que c'est vous qui vous gérez. Alors que nous, nous obéissons à des lois. En plus, l'université est publique. Donc, c'est le ministère qui gère les universités. Un recteur est élu et les universités ont ce qu'on appelle l'autonomie de gestion. Ça veut dire que les universités, ils font leur budget et conformément à leur budget, on les finance et ils exécutent librement leur budget. Mais sinon, les universités, l'autonomie, c'est un peu trop dire. Ça veut dire que vous fonctionnez indépendamment de l'État alors que c'est un service public.
Merci, merci docteur. Je vais revenir vers vous, monsieur Mamadou Mustapha Tchouroma. Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez, vous, de cette question d'autonomie?
Merci beaucoup pour cette question qui vient à point nommé. Comme ça a été dit, c'est dire que il y a de l'autonomie chez les enseignants-chercheurs, c'est trop dire, c'est exagérer d'une façon générale. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un statut autonome des enseignants-chercheurs. Et ce statut, c'est, comme on peut le dire, un ensemble de règles qui permet à ce que ces enseignants puissent avoir un canevas de travail, leur permettant de comprendre ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. C'est dans ce sens qu'ils sont libres à agir en fonction de cette loi dans le cadre de leur liberté académique, comme le docteur a eu à le dire. C'est une situation qui permet à ce que ces enseignants-chercheurs puissent avoir une liberté de réfléchir, de dispenser des cours d'une manière où ils n'auront pas l'influence de quelqu'un, mais tout en respectant ce statut qui est un ensemble de lois qui a été adopté et qui a été mandaté en 2012, qui est la loi 2012-28 du 18 mai 2012 qui a été adoptée et validée par l'État du Niger. Donc c'est en quelque sorte cela, et c'est ce qui, malheureusement, beaucoup d'enseignants-chercheurs ne comprennent pas. Ils pensent qu'ils sont autonomes, ils sont des super-rois, et c'est ce qui fait que vous n'entendez que le mot « autonomie des enseignants-chercheurs » partout.
D'accord, merci. Nous allons revenir vers vous, docteur. Dites-nous d'où vient cette idée de l'autonomie des enseignants-chercheurs ou de liberté académique?
Donc, comme je vous ai dit, l'université est une institution de recherche. Et imaginez, vous entamez une recherche et que vous n'êtes pas libre d'aller. C'est comme les journalistes. Si on dit aux journalistes, on va restreindre vos libertés, vous ne pouvez pas accéder à tel service, ou à telle réponse, à tel truc. Vous voyez, ça bloque. Donc, l'information bloque. L'universitaire, c'est un chercheur. Donc, on dit enseignant, chercheur et chercheur. Donc, l'enseignant même à l'université est un chercheur. Donc, si un chercheur n'est pas autonome, voilà le problème qui va se poser, c'est qu'il risque d'avoir une routine. Il ne peut pas avoir évolution dans la pensée universelle. Donc, c'est depuis, c'est pas nous, hein, c'est l'université. Dès le départ, la création des universités, les universitaires ont lutté pour être indépendants dans leurs discussions, dans leurs enseignements, afin de pouvoir développer les connaissances et évoluer dans ce sens. Imaginez qu'on vous dit non, vous n'avez pas le droit de faire ces recherches. Ou bien, voilà les limites de vos recherches. Alors, dans ces conditions, vous ne pouvez plus faire des recherches.
Effectivement, docteur. Donc, dites-nous, au niveau de l'université de Niamey, avec l'expérience que vous avez vécue, comment fonctionne cette idée d'autonomie ou bien comment est-elle appliquée?
Effectivement, le problème, c'est ce que l'étudiant vient de dire. C'est-à-dire que certains enseignants, quand ils ont appris qu'il y a les libertés académiques, ils l'ont confondu avec l'autonomie. Non. Et la liberté académique, ça impose aussi quelques disciplines, en fait, certaines règles. Parce que vous imaginez si vous, c'est ce qu'on appelle l'inadmissible liberté de langage. C'est-à-dire que vous n'avez pas à dire certaines choses. Vous êtes libre de vous exprimer, mais quand même dans la liberté des autres aussi. Donc vous n'avez pas à empêcher la liberté de l'autre parce que vous êtes libre. Donc dans ces conditions, il y a une limite à ne pas dépasser. Donc à l'université de Niamey ou bien dans les universités publiques du Niger, c'est Et la loi 2012, qui disait là, donc à son article 48, détermine les conditions de liberté d'expression. Et la loi 49.5, dans les articles 49-50, il y a les contributions de l'enseignant-chercheur. Qu'est-ce que l'enseignant-chercheur devrait faire? Quel est l'apport de l'enseignant-chercheur, individuellement et même collectivement? Qu'est-ce que vous pouvez amener pour l'épanouissement de votre université? Mais à l'article 51, au niveau de 51, il y a l'obligation des enseignants-chercheurs. C'est-à-dire que l'obligation de participer à l'activité de recherche, obligation de participer vraiment à tout ce qui permet de faire avancer le système éducatif nigérien. Donc, normalement, l'enseignant devrait participer.
Donc, si nous comprenons, il y a aujourd'hui des enseignants qui n'ont pas très bien compris cette idée d'autonomie et qui exagère à leur...
Il y a ceux qui n'ont pas bien compris, mais il y a ceux qui ne peuvent pas comprendre.
Parce qu'en
fait, vous savez, le Nigérien, c'est quelqu'un qui ne lit pas. Donc, la personne, il est enseignant-chercheur, il a le titre, il est fonctionnaire, et maintenant, il ne se permet pas de lire. Et puis, il y a la passivité du Nigérien. Vous voyez, quelquefois, on discute de votre problème et vous faites semblant que c'est pas votre problème. Et donc, les gens sont tellement passifs qu'à la fin... La dernière loi qu'on vient de voter remet en cause les libertés des enseignants.
D'accord.
Donc, voilà le comportement de l'enseignant-chercheur. C'est-à-dire qu'on trouve comme si, bon, l'université les intéresse. En fait, ce qui les intéresse, je viens, j'ai fait mon cours, je m'en vais. Donc, il n'y a aucune différence avec l'instituteur. Or, ces libertés académiques imposent également le fait que tu sois vraiment un chercheur, le fait que tu participes aux activités. Que tout ce truc-là, tu dois amener ta contribution. Normalement, c'est pour cela qu'on a consacré ces libertés académiques. Mais les gens ne le font pas, ils viennent, ils se présentent à l'école, ils font leur cours, ils s'en vont et puis ça s'arrête là.
D'accord. Donc, pouvez-vous nous dire en quoi cette loi dont vous parlez, qui est nouvelle, remet en cause les libertés académiques?
Tout récemment, le SNES avait signé une loi dans laquelle on dit que le recteur rend compte à un président de conseil d'université nommé par le gouvernement. Et le recteur est élu. Vous imaginez le problème? Et en fait, on dit le recrutement, cette fois-ci, c'est le ministre qui va signer les arrêtés de recrutement. Imaginez le processus. Avant cette loi, qu'est-ce qui se passe? C'est le département, c'est-à-dire la spécialité en question, par exemple, un département de mathématiques. Ils ont besoin d'un enseignant statistique. Le département exprime ses besoins en statistique. On lance l'appel d'offres. Les gens déposent les dossiers. Le département s'est réuni. On classe les dossiers par priorité. C'est-à-dire que voilà le bon dossier, le second dossier, le troisième dossier, s'il y a trois dossiers. Et on envoie au conseil scientifique. Le conseil scientifique analyse le choix des gens. S'il juge que le choix est objectif, maintenant on prend le meilleur dossier là. Et c'est ce meilleur dossier qu'on recrute. Et le recrutement s'est fait au niveau de l'université, c'est-à-dire que c'est le recteur qui signe. Mais ça, c'est remis en cause. Cette loi dit non, le recrutement va se faire au ministère. Ensuite, le recteur qui avait une autonomie avec rang de ministre, donc une autonomie de gestion avec rang de ministre, maintenant le recteur devient un simple élément, une simple croix de transmission. Il perd tout.
Il va rendre compte.
Et il ne rend pas compte aux universitaires, mais il rend compte à un administrateur nommé par le gouvernement. Vous voyez ce que ça devient. Il y a trop de limitations, c'est presque l'armée. Donc, nous avons vraiment. N'avons du tout pas pensé que le SNEC puisse signer ce type d'accord. Parce qu'au niveau de l'application, ça sera très difficile. La multiplicité des responsabilités, on ne sait pas qui. Les limites du président du conseil d'université, le recteur élu, le ministère, tout cet ensemble-là joue le même rôle que le recteur avant. Et maintenant, c'est partagé entre trois. Le rôle du recteur est partagé entre trois services. L'université, un président du conseil d'université et un ministre.
Un ministre.
Tout intervient. Alors, donc là, ça devient un peu de l'anarchie, en fait, si on peut le dire. Donc, c'est un peu plus compliqué dans ce sens.
D'accord, merci docteur. Nous allons revenir vers notre JT de Lenoun, le SCA, le chargé des affaires académiques au niveau de l'université de Niamey. Dites-nous quel est l'impact aujourd'hui de cette question d'autonomie sur la vie des étudiants.
D'accord. En fait, ce qu'il faut retenir sur l'impact de cette autonomie mal comprise, d'abord par les enseignants-chercheurs, et qu'ils se donnent, la plupart de ces enseignants-chercheurs se donnent la liberté de faire ce qui leur plaise au lieu de faire ce qu'ils doivent faire en réalité. Et donc, c'est pour revenir un peu aussi sur les différentes questions de sanctions et qui ont permis à ce que les étudiants ont soutenu à un certain moment les modifications des textes et aujourd'hui qui sont passés à l'Assemblée nationale et qui ont permis à ce que le statut et la composition, les différentes étapes de sanctions soient modifiées. Et c'est ce qu'il faut remarquer au niveau du conseil de l'université. Aujourd'hui, cette autonomie qu'on donnait, que les enseignants pensaient avoir, leur permettait sur un clin d'œil de détecter un étudiant qui ne leur plaise pas ou bien qui peut poser un certain acte, souvent qui ne mérite même pas une sanction, une exclusion, et que, étant donné que les étudiants sont mal représentés en nombre, c'est pas en qualité mais en nombre, sont mal représentés au niveau du conseil de l'université, sont toujours victimes et n'arrivent même pas à imposer parce que dans tout conseil, c'est une question de démocratisation, c'est une question de voix qui compte. Et parmi tous les conseils qui va au-delà de 30 membres, les étudiants ne sont que 7, où c'est un représentant par fac pour aller défendre leurs collègues, leurs camarades. Et cela impacte énormément sur la qualité du rendement, même s'il faut exposer une idée et faire en sorte que le conseil de l'université puisse en tenir compte. Et c'est ça, au fait, ce qui blesse le plus les étudiants au niveau de cette supposition d'autonomie que les enseignants pensent avoir, mais qu'ils n'ont pas réellement. Ils ont l'autonomie de faire leurs recherches en fonction de leurs convictions pour apporter un plus à la société, aux besoins de la société, chose qui ne se fait pas, qui se fait très rarement. Aujourd'hui, il y a certains qui ont commencé à comprendre, qui essaient d'identifier les problèmes de la société et de poser des thèmes par rapport à ça. C'est de cela qu'il s'agit. Et sans pour autant tenir compte de l'aspect politique où ils sont liés à un parti politique, où ils sont liés à une personne qui est au pouvoir et qui ne veut pas qu'ils puissent parler de tel problème parce que ça ne les avantage pas. C'est de cela qu'il s'agit, mais c'est ça qu'ils n'ont pas compris réellement.
D'accord. Donc, vous avez parlé tantôt de sanctions. Pensez-vous que les mesures maintenant prises peuvent permettre une certaine sanction et puis mettre en cause les bavures d'antan?
La nouvelle loi qui a été votée par l'Assemblée générale, si elle est appliquée rigoureusement, donne plusieurs niveaux de sanctions. J'ai une copie, ce n'est pas encore promulgué par le président de la République. Nous attendons impatiemment que ça soit promulgué par le président de la République, parce que ce qu'il faut comprendre à ce niveau, c'est que d'antan, les enseignants-chercheurs, quel que soit ce qu'ils font, quelle que soit la bavure qu'ils arrivent à commettre, ont une certaine immunité intouchable, au fait. Parce que dans l'autonomie de ces enseignants, on dit que pour faire amener un enseignant en conseil de discipline, il faut même l'accord de ses collègues, de ses pairs, et qui sont de rang A. Et ça, c'est une supercherie. Parce que aucun enseignant, s'il dit « je ne veux pas aller », personne ne l'oblige à aller. Il n'y a pas un pouvoir qui l'impose d'aller pour siéger, pour sanctionner son collègue. Et généralement, ce qui se dit, il y en a des plaintes qui ont été déposées 2 ans, 3 ans, 4 ans, sans suite, quand on touche un enseignant de rang A. Non, quand je vais siéger dans le comité, il va m'en vouloir à vie. Et je ne veux pas qu'il m'en veuille à vie parce qu'aujourd'hui, peut-être, je pourrais avoir besoin de lui parce qu'il a un grade un peu plus élevé. Il peut m'accompagner dans l'évolution au niveau du CAMES. Il peut aider mes étudiants à avoir certaines petites facilités qui n'avantagent pas en réalité l'État, mais que les gens acceptent de faire. Vous voyez, au fait, j'aimerais revenir un peu sur la procédure de recrutement dans les nouveaux textes que Dr Aï a évoqué. C'est que la procédure a été augmentée d'un pas un peu plus. Souvent, les mêmes procédures sont respectées. Hein. Quand vous allez prendre la nouvelle, les nouveaux textes qui ont été élaborés, l'article 5 nouveau et ce qui en suit, c'est que ça repart encore du département. Ça repart du département, c'est le département qui exprime son besoin. Et quand le département exprime son besoin, on montre le doyen fait l'appel d'offres. Et maintenant, les dossiers sont traités d'abord au niveau du département. Et puis le conseil scientifique retraite les dossiers et les classes. C'est à partir de là qu'on note le pouvoir que le recteur avait pour donner directement un titre à quelqu'un, d'être d'enseignant-chercheur de le recrutement, on le donne à un homme politique. C'est là où le bas blesse en ce moment. Parce que on sait que souvent, l'homme politique, quand tu n'es pas avec lui, on te fait un classement, on t'envoie le classement, et dit non, ce monsieur, il a toujours été contre moi, on enlève son nom, on le remplace par un autre. Ça, c'est là où ce n'est pas bon. Mais dans toute loi, dans toute chose, on ne fait qu'aller vers la perfection. On estime que à partir de là, les gens vont comprendre au fur et à mesure leurs erreurs et les corriger avec le temps.
D'accord, donc merci. Docteur, le mercredi 30 juin 2020, les députés du Niger réunis en séance plénière ont approuvé les modifications apportées au statut autonome du personnel enseignant. Quelles sont les modifications apportées à ce statut et pourquoi ces modifications?
Nous avons eu un premier brouillon. Après, on a dit c'est pas ce qu'on a qui était parti à l'Assemblée. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il vient de dire, les sanctions, en fait, c'est pas que ces sanctions n'existaient pas dans l'autre texte. L'autre texte dit le recteur a la possibilité de créer n'importe quelle commission pour juger une affaire. Ça veut dire quoi? Que quand un étudiant triche, par exemple, ce n'est pas à un enseignant. On amène les preuves de la tricherie, on crée une commission. Et c'est cette commission qui va dire que voilà le niveau de tricherie et maintenant l'étudiant peut être sanctionné par rapport à ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Depuis qu'on a donné, on a commencé à élire les recteurs, mais il y a une corruption intellectuelle, si je peux le dire. En fait, ça veut dire quoi? Que le recteur refuse de toucher un enseignant-chercheur parce qu'un enseignant-chercheur, c'est une voix. C'est une démission de la part du recteur. Et c'est pour ça que nous avons dit, c'est pour des fautes administratives qu'on est en train de changer la loi. Mmh. En fait, on n'a pas besoin de changer la loi. Mmh. On applique la loi 2012, l'université marche. Mmh. Pourquoi? Parce que la loi 2012 dit, voilà, que en cas de faute de n'importe qui, un enseignant, un étudiant, n'importe, c'est une commission qui juge. Une commission va se réunir et c'est cette commission-là qui va juger. Et le recteur a la possibilité de créer une commission à tous les niveaux. Et je vous donne un exemple. Quand Yenko était recteur et qu'il y a eu des petits problèmes entre les étudiants et des manœuvres de chez nous, on a créé une commission qu'on appelle OVU, qui est chargée de régler le contentieux entre les étudiants, les manœuvres et les étudiants, même avec les enseignants. Mais pourquoi, après lui, l'autre recteur refuse de faire? S'il y a un problème à l'université, on n'a pas besoin de passer par quelqu'un va sanctionner quelqu'un va sanctionner. Une personne ne sanctionne pas une autre. C'est difficile que le gars est docteur, toi tu es docteur, parce que simplement tu es doyen, tu vas dire à ton collègue, tu me fais une lettre d'explication. En plus, on dit que le doyen est élu. Mais imagine, tu es élu et tu sanctionnes tes électeurs. C'est pour ça que j'ai dit au niveau du décret d'application, on risque d'avoir des problèmes avec cette loi. Donc, l'ancien texte dit qu'en cas de faute, le recteur a la possibilité de créer une commission pour juger et sanctionner comme tel.
Est-ce qu'il y avait, à cette époque où vous parlez, un mécanisme de suivi pour que, bien évidemment, ces sanctions soient appliquées?
Il y a un mécanisme de suivi. C'est-à-dire que quand la commission, quand on fait une commission, il y a toujours un président de commission. Une fois que le président de commission fait son rapport, on remet au recteur et le conseil d'université, le recteur explique au conseil d'université. Et le conseil d'université est au supérieur à toutes les instances universitaires. Donc le conseil d'université applique la sanction et l'enseignant est sanctionné conformément aux dispositions du conseil d'université. Parce que le conseil d'université renvoie un enseignant-chercheur. Le conseil d'université rend uniquement au ministre dans le truc-là. Donc, c'est l'instance supérieure au niveau de l'université. Et donc, si les recteurs avaient appliqué ces règles, imaginez vraiment ce qui est aberrant, c'est qu'un enseignant, par exemple, on dit qu'il a fait 6 mois, il n'a pas corrigé les copies et qu'on attend que lui pour délibérer. 6 mois, c'est un semestre.
Effectivement.
Et au Niger, c'est même une année. Ça veut dire que pour cet enseignant, on fait une année blanche. Mais le recteur est au courant, le département est au courant, la faculté est au courant. Mais au niveau de tout ce truc administratif, personne ne l'interpelle. Ça veut dire quoi? Ça, ce n'est pas une question d'autonomie. On peut dire que c'est une lâcheté administrative. Et donc, c'est des choses comme ça qu'on doit combattre. Et ça, c'est à l'interne, à l'université, qu'on va le faire. On n'a pas besoin qu'un homme politique intervienne pour dire « faites ceci, non ». Et les tests de l'université permettent cela. Et on n'a pas fait. Donc, voilà pourquoi, à un moment donné, avec ce laxisme, le gouvernement s'était dit, bon, si on les laisse, ils ne vont jamais évoluer, il faut intervenir. Mais quand ils sont intervenus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une sorte de chirurgie où, bon, on fait ablation de telle partie, telle partie, telle partie, et on fait un truc trop simple qui ne permet pas l'épanouissement de l'université. Et donc, par conséquent, on s'est dit, si le test là continue au bout de 56 ans, le gouvernement sera obligé même de changer, puisque, en fait, ils vont constater qu'ils ont tous stérilisé. Mmh. Les gens ne vont pas avancer. Mmh. Et les gens vont tourner en rond. Voyez. Donc, et puis, quand on avait changé quand on fait une loi pour changer les tests de l'université, il faut tenir compte également des étudiants. Mmh. Aujourd'hui, il n'y a pas de statut d'étudiant au Niger. Il devrait avoir statut d'étudiant qui dit, bon, voilà le droit de l'étudiant, le devoir de l'étudiant, les obligations à respecter. Donc, il devrait avoir ce statut d'étudiant. Il n'y a pas de statut d'étudiant. On a statut PAT, statut enseignant-chercheur, mais il n'y a pas statut d'étudiant. Ça, on doit avoir des statuts d'étudiant afin de permettre vraiment à l'étudiant, de, par rapport à ces tests, de dire que non, tel point, nous avons les raisons parce que notre statut le dit. Et donc là, il n'y aura plus d'abus, comme il le dit, un enseignant s'élève, il renvoie un étudiant, il fait sortir. Non, il n'y aura plus d'abus parce qu'en fait, il y a le statut qui protège l'étudiant.
D'accord. Donc, merci, Mère. On va revenir vers Mustapha Tchiroma. Dites-nous, quelle appréciation faites-vous des modifications apportées au statut des anciens chercheurs malgré cette absence de statut des étudiants?
Il faut montrer qu'il y a un aspect positif dans cela, à notre avis, parce que les universitaires ont montré leur défaillance, leur incapacité à gérer en fonction des tests qui sont là. Donc maintenant, il faut imposer des nouveaux tests qui vont être appliqués. Parce qu'aujourd'hui, quand ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une certaine autorité qui revient au niveau des chefs de département, au niveau des doyens, et au niveau du recteur et même du président du conseil. Parce qu'au niveau de ces nouveaux textes, au niveau de l'article 12 nouveau, c'est qu'il y a, les échelons de sanctions sont à tous les niveaux. Un chef de département peut sanctionner un enseignant qui ne vient pas. Et aujourd'hui, c'est ce qui manquait à l'université avec les textes de 2012. Les enseignants chercheurs, aujourd'hui, hein, je vous prends un exemple très banal. Un enseignant chercheur qui est maître assistant, qui a été élu chef de département, et dans son département, il y a un professeur titulaire qui se croit roi. Aujourd'hui, il les demande, on te programme pour venir faire cours. Je vous assure, moi, j'en connais beaucoup. Et il l'appelle, dit, mais toi, tu te moques de qui? Toi, tu te moques de qui? Mais c'est toi qui vas me programmer pour faire cours? Et dans cette confusion, parce qu'il sait que le petit maître assistant, selon lui, ne peut pas lui imposer un comportement, et qu'il sait que même s'il dépose plainte au niveau du rectorat, ça ne va pas sortir du circuit.
D'accord. Donc, Mustapha Tchiroma, dites-nous, qu'est-ce que les étudiants font quand ils constatent qu'il y a des manquements et qu'il faudrait par ailleurs corriger?
Aujourd'hui, ce que l'UNUN fait à tout état de cause, c'est comme au niveau des revendications les plus légitimes, l'UNUN pose ses revendications et demande à ce que les lois soient modifiées. Et souvent, on nous demande de proposer des nouvelles lois et on fait les propositions. Et même maintenant, il y en a d'autres qui sont en cours qu'on va proposer au niveau du gouvernement et on fait ces propositions. L'UNUN donne son point de vue par rapport à toute situation qui existe, même ce cas, le nouveau protocole qui a été signé entre le SNEX et le gouvernement. L'UNUN avait donné son point de vue et malheureusement ça a été un peu renversé parce que c'est que on devait avoir un président de conseil élu et un recteur nommé. Mais
donc, vous ne cherchez pas de l'application des mesures pour qu'il y ait sanction?
Non, si. Mais quand on dit que quelque chose ne marche pas, c'est qu'on constate qu'il y a dans la chaîne d'application, il y a une défaillance. Donc, il faut mettre des mesures permettant d'imposer, de comprendre. Aujourd'hui, ces mécanismes qu'on demande, c'est que quand on constate qu'un enseignant-chercheur ne délivre pas les copies à temps, on sait que c'est le chef de département qui a refusé de dénoncer. Et là, nous, en ce moment, on dénonce le comportement laxiste du chef de département. Et c'est quand lui, il dénonce, arrive au doyen, ça ne part pas, on constate que c'est le doyen qui refuse de sanctionner, c'est lui qui revient. Et on dit que lui-même, il est mauvais. Aujourd'hui, c'est la force de l'expression que l'UNUN peut utiliser à travers l'application de ces textes. Parce que quand l'UNUN constate que quelque chose est mal appliqué, on détecte directement le fautif. Parce qu'aujourd'hui, pour sanctionner quelqu'un, pour donner un avertissement à quelqu'un qui refuse de donner les copies, quelqu'un qui refuse de faire cours, le chef de département n'a pas besoin d'appeler un conseil. Il lui demande pourquoi dans tel jour tu n'as pas donné tes copies. Quand tu refuses de donner les copies en 21 jours, on fait un rapport sur toi, on ampute les frais de correction de copies, on ne te donne plus. Et là, ce sont des sanctions où on va savoir est-ce que le chef de département, là, il est sérieux, en fait.
D'accord. Donc, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez des modifications récentes? Sont-elles des modifications qui avantagent les étudiants?
Oui, on peut dire que ça avantage les étudiants, ça avantage l'université dans certaines mesures. Dans toute loi, il y a des choses qui avantagent, il y a des choses qui n'avantagent pas. Aujourd'hui, quand on demande à un enseignant, aujourd'hui, on sait la plupart des enseignants, comme Dr Aïe a le dit, ce sont des gens qui viennent enseigner et qui quittent, qui n'ont pas perspective d'avenir pour le Niger. Donc, quelqu'un qui est trop accroché à l'argent, quand on lui dit, on coupe ton salaire si tu ne corriges pas les copies, attends, mais ça a un effet. Nous, on a nos résultats, attends, et c'est ça qu'on veut. Donc, ce sont des trucs où il y a des aspects positifs et que ces aspects, il faut les prendre en compte et faire en tout pour que ça soit appliqué au niveau quand la loi sera promulguée.
Alors, docteur, on va revenir vers vous. Dites-nous, vous, selon vous, quels sont les avantages ou bien les inconvénients de ces modifications?
Bon, en fait, nous, dès le départ, nous avons la modification qu'on a voulu, c'est que le recteur soit simplement nommé. Mm-hmm. C'est-à-dire que pour qu'on soit conforme au statut de toutes les universités du monde, le recteur est un fonctionnaire, il est nommé, il est chargé de l'administration de l'université. Mm-hmm. Maintenant, l'université élue son président de conseil. Mais le recteur, il a rendu ministre. Imaginez un ministre que vous élisez. Vous voyez, et c'est ce qui s'est passé, qui s'était passé depuis. Et voilà pourquoi il y a eu un peu de laxisme dans le fonctionnement de l'administration. Par exemple, il dit que le chef de département appelle quelqu'un pour dire de venir faire cours. Non, normalement, quand une université fonctionne normalement, ce n'est pas au département d'appeler le truc. C'est la scolarité qui fait le calendrier semestriel des cours. Chaque enseignant sait exactement ce qu'il va faire dans ce calendrier, le semestre. Et il a la répartition. Maintenant, on a créé une confusion. On dit, bon, un coordinateur fait l'emploi du temps, mais ce coordinateur, il ne dispose pas des salles. Aujourd'hui, quand vous venez à la fac des sciences, par exemple, vous avez 47 sections et vous avez 17 salles. Maintenant, on dit à 3 ou 4 personnes de faire des emplois de temps séparés. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura sur proposition des salles. 8 heures, 10 heures, on te programme pour telle salle et on a programmé un autre aussi pour la même salle. Vous voyez ce qui se passe? Il y a très peu de salles et maintenant, on a plusieurs niveaux de décision, ce qui n'est pas bon. Si c'est la scolarité qui fait, en fonction de disponibilité des salles, la scolarité fait sa répartition. Et on fait la répartition semestrielle des cours. Chaque enseignant sait, le mois de janvier, mon cours commence et j'ai fini le mois de mars, mon cours. Alors, dans ces conditions, si tu as un retard, on compte au bout de 12 semaines, si tu as un retard, parce que le semestre, c'est 14 semaines, 12 semaines, on essaie d'évaluer pour voir ceux qui sont en retard. Ceux qui sont en retard, on leur donne un peu d'occasion. Parce qu'en 12 semaines, les gens peuvent finir leur cours et maintenant proposer les examens. Donc, on évalue, on voit les retards. Mais si on dit, bon, un tel, toi, tu es programmé, jusqu'à la fin de ton cours, un autre va commencer. Jusqu'à la fin de ton cours, un autre va commencer. Vous voyez ce que ça fait? Ça veut dire qu'il y aura une superposition de cours. Et donc, on ne peut pas savoir. Les étudiants ont des difficultés pour savoir les relations entre les matières.
Les matières.
Parce que s'il y a des cours de maths, si tu n'as pas fait, tu ne peux pas venir en physique faire certains cours de physique. Parce que tu as besoin de ces règles mathématiques pour faire cette physique. Et donc, quand on dit tel enseignant finit, tel enseignant, vous allez voir un étudiant en deuxième année qui va te dire que non, en première année, on n'a pas fait ça. Mais ceux qui n'ont pas fait là, ils ont besoin de ça en deuxième année pour faire une autre matière. Et donc, c'est cette proposition-là. Donc, la scolarité, l'administration responsabilise la scolarité qui fera l'emploi du temps pour tout le monde. Et là, on n'a pas besoin. On sait tel jour qui a cours et dans telle salle.
D'accord. Donc, chers invités, cette fois-ci, nous allons vous demander tous deux de nous dire quelles perspectives, selon vous, peuvent permettre l'amélioration des conditions d'études dans le système LMD au niveau de l'université de Niamey ou bien dans les universités publiques du Niger?
Donc, en perspective pour améliorer, moi, je pense que d'abord, premièrement, il faudrait qu'on regarde les freins. Qu'est-ce qui freine notre système scolaire, en fait, globalement, le système universitaire? Donc, il y a d'abord les équipements, les salles, les bibliothèques, il n'y en a pas. Il y a très peu de salles, très peu de bibliothèques. Et vous voyez, même les étudiants, quand ils réclament, ils ne réclament pas bibliothèque. Or, l'étudiant est là pour étudier, quitter au bout de 3 ou 5 ans. Il doit finir. Il doit avoir les documents à sa disposition. On ne peut pas dire qu'un étudiant, il n'a que le cours de l'enseignant et puis il n'a pas un livre pour pouvoir compléter. ou bien il est sur Internet en train de regarder les cours des camarades qu'ils ont mis encore sur Internet. Donc, vous voyez, donc l'étudiant devrait avoir cet équipement. Donc, pour que le LMD marche, parce que le LMD suppose une spécialisation, il faut qu'il y ait l'équipement nécessaire pour ça. Il faut qu'il y ait les laboratoires. Parce que quand quelqu'un finit une licence professionnelle et qu'il n'est pas pratique, à quoi ça sert? Donc, pour que l'LMD marche, il faut forcément qu'il y ait les laboratoires. L'LMD coûte plus cher que l'ancien système, hein, parce que là, on professionnalise les étudiants. Ensuite, pour que ça marche également, il faudrait que, de l'autre côté, les enseignants aussi s'y mettent. Parce que c'est ça que les enseignants devraient se dire que nous avons le devoir de faire tourner notre université, le devoir de booster notre université. Pourquoi? Parce qu'on classe les universités. Si votre université est toujours dernière, quand même, ça ne vous honore pas. Ou bien votre étudiant est parti dans telle université avec son diplôme de licence et on l'a chassé parce qu'il ne vaut rien. Ça ne vous honore pas. Ça, il faudrait que de l'autre côté aussi, les enseignants s'y mettent. Donc, les conditions de travail doivent être vraiment élucidées d'abord. Donc, il faudrait qu'on ait des salles de cours. Il faut qu'on ait des bibliothèques équipées. Il faut que les étudiants aient des laboratoires. Et donc, avoir vraiment les bonnes conditions de travail pour que...
Et par rapport à cette question d'autonomie?
Je vous ai dit, l'autonomie, dès le départ, les enseignants avaient la liberté. Le statut 2012 dit, consacre la liberté académique aux enseignants. Mais, malgré cette liberté académique, le LMD n'a pas bouché. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque part les freins. Or, ce qu'on voit quand on vit à l'université de Niamey, ce qu'on voit, c'est que les étudiants sont toujours en train de réclamer les salles de cours. Parce qu'en fait, c'est quoi? Pour construire Amphi 1000 places, il a fallu qu'il y ait la mort d'un bagalé. Imaginez ce que ça fait. Pour construire Amphi 1000 places, il faut prendre 3 ans, 4 ans.
D'accord. Donc, merci, docteur. Nous allons revenir vers le SCA de Lenoun. Quelle perspective pensez-vous, vous, pour l'amélioration des conditions d'études à l'université de Niamey?
Merci. Avant de donner les perspectives, j'invite le SINASIP à bien regarder les plateformes revendicatives de tous les temps de Lienoun. Ce n'est pas à notre temps seulement, de tous les temps. Lienoun a toujours revendiqué des bibliothèques de bonne qualité et qui répondent aux normes standards internationaux à tout temps. Donc, c'est quelque chose que il faut que vous regardez les plateformes de Lienoun. Quand Lienoun fait des revendications, Lienoun ne fait pas des revendications purement sur les salles, bien qu'il y a beaucoup de problèmes. Ce qui m'amène à évoquer les problèmes, les perspectives meilleures. Aujourd'hui, nous sommes dans un État qui ne se respecte pas, au fait. On ne peut pas comprendre dans un gouvernement où il y a un budget de plus de 2000 milliards, et que aujourd'hui, la principale université publique du Niger, on lui affecte un des miettes de 7 milliards, 8 milliards pour son fonctionnement. Alors que ce sont des miettes qui ne peuvent même pas permettre de couvrir et les salaires des enseignants-chercheurs, leurs primes de recherche, leurs indemnités. Et il y a tout cela. Et aussi, créer un cadre de vie propice pour que les étudiants là puissent s'épanouir. Donc, ce qu'il y a lieu, pour qu'il y ait d'abord un truc de perspective meilleure pour que les universités puissent sortir de ce gouffre dans lequel elles sont, c'est que l'État, le gouvernement, doit savoir qu'il doit investir d'abord dans l'éducation. Parce que c'est ce qui manque aujourd'hui. Quand le budget avait quitté en 2011-2012, le budget était à 11 milliards, 11 milliards, 10 milliards. Mais aujourd'hui, pour certaines raisons, c'est revenu à 8 milliards, 7 milliards. Mais ça sert à quoi? Est-ce qu'on veut avancer? Ça, dans un pays où on dit on veut avancer, au lieu d'allouer plus de frais au système éducatif, on réduit. Et on demande à ce que vous ayez de bons résultats. Aujourd'hui, nous avons un manque sérieux de salles de cours, un manque sérieux d'amphithéâtres où les étudiants souvent font la pression pour venir les dimanches et les samedis pour venir faire cours pour pouvoir avoir accès aux salles. Le deuxième aspect, c'est que les enseignants-chercheurs doivent éviter leur mauvaise foi. Certains, je le dis bien certains, parce qu'il y en a beaucoup qui essaient de perfectionner le domaine, qui savent qu'au fait, c'est leur fruit qu'on va voir à l'extérieur quand ils vont sortir. Mais il y en a qui se plaisent en disant, au fait, cette année, j'ai fait un bon calcul, il n'y a que 5 qui vont avoir la moyenne et je me retrouve. Il y en a qui se gargarisent en pleine salle, montrer que, au fait, c'est parce que vous êtes nul, vous n'arrivez pas à faire. Mais s'ils sont nuls, c'est parce que l'enseignant lui-même, il est nul. parce qu'il n'arrive pas à faire comprendre à ses étudiants que voilà ce qu'ils doivent faire.
D'accord. Donc, qu'en est-il de cette autonomie? Il nous reste très peu de temps.
Pour l'autonomie, ce qu'il faut comprendre à partir de l'application, la vulgarisation de ces lois, les étudiants de ce qui a été voté récemment, les étudiants vont se donner corps et âme, que ce soit nous au comité exécutif ou pas, vont se donner corps et âme pour détecter est-ce que l'application de ces lois-là se font. Parce que ce qui manque au Niger, c'est l'application de ces lois. On dit que les gens sont autonomes, mais ils ne lisent même pas concrètement qu'est-ce que ça veut dire leur autonomie. Donc, il faut que chacun comprenne ce que ça veut dire. On va sensibiliser nos camarades à comprendre ce que ça veut dire l'autonomie d'un enseignant-chercheur et ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Et quand il va piétiner ces lois, qu'on puisse déposer plainte contre cet enseignant-chercheur pour qu'il puisse répondre devant la loi et être sanctionné conformément aux dispositions qui sont en place.
D'accord, donc merci chers invités. Mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de notre émission Forum du Studio Kalangou qui nous a permis d'échanger sur la thématique de l'autonomie des enseignants-chercheurs dans le système LMD dans les universités publiques du Niger. Nous vous disons merci pour votre fidélité au programme du Studio Kalangou diffusé à travers 45 de nos radios partenaires. Dans ce forum d'aujourd'hui, nous étions avec M. Idrissa Moussa qui est chargé aux relations extérieures au SUNACIP, syndicat autonome des enseignements du supérieur dans le public, et M. Mustapha Mohamed Chiroma qui est le SCA de l'ONU. Merci pour nous avoir accompagnés et suivis. Restez fidèles au programme des studios Kalangou.